Les plumes sur RCN, présentées par Mona.
Bonjour à tous, j'ai la joie de recevoir aujourd'hui Denis Bolot pour son roman Un Gul'dan au creux de la main, publié en auto-édition. Il y a également avec nous John Bullitt qui nous fera la lecture de la suite de sa nouvelle Les Embêtants. Bonjour à vous.
Bonjour. Bonjour Mona.
Alors Denis, vous êtes l'auteur de 6 romans policiers qui mettent en scène Franck Terco, un ancien flic devenu détective privé. Un Gul'dan au creux de la main est un roman historique qui mêle fiction et faits réels. Alors pourquoi avoir changé de genre ?
Pourquoi avoir changé de genre ? Ben simplement parce que lorsque j'ai écrit le 5e roman, j'ai fait des recherches et ces recherches m'ont mené à Saint-Nicolas en pleine histoire, en plein 16e. C'était la genèse de mon roman.
D'accord.
Pris de passion par cette époque, j'ai gratté, j'ai creusé et je me suis passionné. Et donc j'ai écrit l'histoire en fait d'un personnage de ce premier roman policier que j'avais fait sur la région et c'est devenu Un Gul'dan au creux de la main.
D'accord. Alors pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas, vous voulez bien nous dire ce qu'est un Gul'dan ?
Alors un Gul'dan correspond en fait à un florin, c'est une pièce d'or. Qui avait en fait lieu dans le Saint-Empire romain germanique. Donc tout le Saint-Empire romain payait avec ses gulden.
D'accord.
C'était la pièce la plus forte, bien évidemment, c'est ce qui faisait la richesse.
Et alors frère Hans, pardon, votre héros, est un moine dominicain qui, en compagnie de ses compagnons Günther et Conrad, prêche la bonne parole pour convertir les populations à la religion chrétienne. Mais Hans n'a pas choisi d'être moine.
Alors Hans est tombé moine un petit peu par accident, puisque ce qui se passait très souvent dans les familles, c'est que l'aîné apprenait le rôle de chevalier, on va dire, le second rentrait plutôt dans les ordres, et le troisième vaquait à d'autres occupations, ou guerrière. Donc lui s'est retrouvé moine, un peu, effectivement, par accident. Vient ensuite l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire se passe aux alentours de 1515-1520. On est en plein dans la reconstruction de la basilique Saint-Pierre à Rome, financée par Léon X à travers les indulgences.
Oui.
Et ces indulgences, en fait, étaient monnayées par Tetzel, et Tetzel était bien évidemment secondé par des moines. Hans en faisait partie.
Oui, oui.
On arrive dans une époque où Martin Luther arrive avec sa réforme. Et donc, il y a un chamboulement de pensée au sein même de l'Église. Et Hans, Günther et Conrad, en fait, se retrouvent, comment je dirais, plutôt désarçonnés par le tournant que prend Léon X. Et donc, décident, suite à une petite altercation, de s'enfuir, de partir. Et c'est ainsi que Hans se retrouve sur les routes avec ses deux compagnons en fuyant Tetzel.
D'accord. Alors, déjà, Hans, il n'a pas vraiment la foi chevillée au corps, hein, on est bien d'accord ?
Complètement, non ?
Oui, 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 oui. Et puis, alors, quand il y a la vente d'indulgence qui est ordonnée par le pape, là, sa foi vacille sérieusement quand même.
Ah ben, entre ses convictions un petit peu bafouées, c'est Tetzel qui n'est pas très facile à vivre.
On est bien d'accord.
On est bien d'accord, puisque c'est quand même une puissance. La puissance ecclésiastique est terrible à cette époque-là. Donc, et oui. Puis, peut-être une envie aussi de voir autre chose, effectivement.
Oui, oui, bien sûr.
Donc, dans toute vie, il y a toujours un déclencheur qui fait que l'on change de vie. Et le déclencheur, c'est ce fameux Gul'dan, en l'occurrence.
Oui, oui, bien sûr. Mais le prêtre, qui était donc le supérieur de Hans, c'est un homme méfiant et surtout cupide. Hein.
Il l'est devenu.
Il l'est devenu, oui.
Il l'est devenu, puisque abrasser autant de richesses, on devient certainement cupide. Enfin, c'est un peu comme ça que je le ressens.
Oui, oui.
Par conséquent, plus on en a, plus on en veut, et plus on essaie de l'avoir pour soi.
Oui, bien sûr, mais en même temps, je veux dire, ils vendent les indulgences, mais ils vendent les indulgences pour des péchés à venir.
Hein ? Ah, c'était très vaste.
Oui,
c'était formidable, les indulgences. On était déjà pardonné d'avance de tous les crimes qu'on pouvait commettre.
D'accord, donc c'est bien quand même. Hein ?
Ah, c'était exceptionnel.
C'est pas mal, oui.
C'était très
c'est pratique.
Vous dites, le fait de vendre du vent est une pratique qui date de loin, on est bien d'accord ?
Ah, complètement.
On n'a pas changé.
Non, pas vraiment.
Pas vraiment ?
Pas vraiment, non. Bon, c'est plus forcément pour sauver son âme.
Oui, bien sûr.
Mais Oui, ça, c'est un commerce qui fonctionne très bien, même encore un moment.
Oui. Alors, Hans Günther et Conrad violent un des 10 commandements et sont donc obligés de fuir.
C'est oui. Ça. Oh, je ne pense pas que ce soit le seul péché qu'ils aient commis. Mais
non.
Bon, après, ils s'arrangent avec leur conscience.
Oui, oui, c'est ça.
Mais oui, c'est peut-être un des péchés, le premier péché qu'ils commettent.
Le vrai péché, oui,
vrai
c'est
péché.
Ça. Ouais. Oui, oui. Et alors, Hans arrive après bien des péripéties, à Saint-Nicolas-de-Port, et il va être embauché pour participer à la construction de la basilique.
Oui, tout à fait.
Alors, il ne sait rien faire, sauf...
Sauf lire, écrire et compter.
Voilà. Puis dessiner un peu.
Alors...
Parce qu'il a fait l'enluminure.
Voilà. Mais ça, c'était quelque chose qu'il avait touché peut-être un peu par accident, un petit peu par hasard, et qui finalement va se révéler un atout fondamental lors de la construction de la basilique.
Oui, tout à fait. Alors, vous faites revivre la construction de la basilique de Saint-Nicolas-de-Port avec son maître d'œuvre, Simon Moisset. C'est un homme exceptionnel. Vous pouvez nous en dire quelques mots?
Alors, Simon Moisset, baptisé comme ceci, je crois, par Émile Badel dans les années 1800, s'appelait Simon Chouard. Mmh. Il avait un alias qui s'appelait Moisset. Et cet homme-là est devenu recteur de la basilique de Saint-Nicolas. Alors, qui n'était pas basilique encore à cette époque, bien
oui,
évidemment.
Oui, bien sûr.
C'était la quatrième version de l'église de Saint-Nicolas-de-Port, qui s'appelait Sanctus Nicolaus à l'époque.
D'accord. Qui avait été détruite plusieurs fois quand même avec les guerres, hein, je pense.
Alors la première était trop près de la Meurthe et donc était inondée d'une façon récurrente.
D'accord.
Donc elle avait été construite un peu plus haut. Pour ceux qui connaissent Saint-Nicolas-de-Port, l'emplacement exact de la rue Anatole-France où elle est actuellement. La deuxième version était plus petite. La troisième, légèrement agrandie, mais pas très grande encore une fois. Et c'est suite à la guerre, à la bataille de Nancy, où notre duc René II avait lancé un appel aux habitants de Nancy, comme quoi il allait attaquer le lendemain, le 5 janvier 1477, excusez-moi.
Oui.
Et là, à ce moment-là, après victoire sur Charles le Téméraire, pour remercier, il a décrété la construction d'une grande église de Lorraine, allant lieu et place donc de la troisième version de l'église. Et c'est ainsi qu'est sortie l'actuelle basilique.
Bah, j'espère quand même qu'à l'époque, elle était quand même un peu plus aérée, parce que là, on ne voit pas grand-chose, hein, quand même. Elle est un peu enclavée dans Saint-Nicolas-de-Port.
Elle a toujours été enclavée. Oui. Elle a toujours été enclavée. Disons que le bourg était moins important, mais... Tout autour, c'était vraiment très serré.
Oui.
Les petits commerçants, les pèlerins, parce que c'était une ville de pèlerinage, bien évidemment.
Oui, oui.
Tout ce petit monde-là était concentré tout autour de la grande église de Lorraine. Et en fait, jamais il n'y a eu un parvis exceptionnel pour la voir en son entier, comme Notre-Dame, par exemple.
Oui, oui, c'est ça. Oui.
Elle a toujours été enclavée.
Oui, oui, ça manque un peu de perspective quand
Absolument.
On la regarde.
Hein. C'est très difficile de la voir en photo en une fois.
Oui, c'est vrai. Alors, Hans va faire le tour de tous les corps de métier, en fait, parce qu'il va gérer un peu les salaires, enfin, etc.
Il va avoir la chance, effectivement, de chapeauter, quelque part, toutes les exigences comptables du chantier. Par là même, donc, il va visiter tous les anciens corps de métier, qu'ils soient tailleurs de pierre, charpentiers, fèvres, donc travaillant le métal. Et tous ces éléments-là, en fait, il les coordonnait de façon à pouvoir les payer, sous ordres de Simon Moïse, bien évidemment.
Bien sûr, bien sûr.
Et par là même, donc, j'ai pu faire une petite visite guidée de ce qu'on pouvait trouver sur un chantier.
D'accord.
À cette grande époque,
oui.
Où on prenait le temps aussi de construire,
oui.
Parce que déjà on n'avait pas trop le choix, c'était à la force des bras, il n'y avait pas de machine, et de pouvoir faire un petit point historique, architectural, si on veut, la façon dont on pouvait monter un monument.
Oui, oui. Voilà. C'est quand même, c'est toujours extraordinaire, moi ça me stupéfie toujours, surtout qu'ils sont en bon état encore. Bon, il y a eu quelques...
La basilique n'a pas vraiment souffert. Elle n'a pas vraiment souffert. Elle a souffert une fois d'un obus, je crois, dans les années 40.
Oui, oui.
Bon, un accident, certainement. Mais bon, elle n'a jamais été détruite. Alors qu'il y a eu des incendies sur Saint-Nicolas-de-Port dans les années 1600.
Oui, oui.
Et pourtant, la basilique est restée debout.
Oui, oui.
Elle est très.
Ils savaient construire.
Ah, ils savaient construire. Et c'était du solide.
Oui, oui, c'est ça. Alors, il fait aussi connaissance avec le maître verrier Valentin Bouche.
Oui.
C'est un homme extraordinaire aussi, lui.
Tous les artisans étaient extraordinaires.
Oui.
Tous.
Oui. Mais, je veux dire, pour Monsieur Bouche, on voit quand même le résultat. Parce qu'on voit toujours ses vitraux.
Voilà.
Il est plus visible que les autres.
Beaucoup de vitraux sont encore visibles, bien
oui,
évidemment.
Bien sûr.
Mais Valentin Bouche avait une particularité, c'est qu'il s'est occupé aussi bien de la grande église de Lorraine, donc la basilique, s'est occupé de la cathédrale aussi de Metz.
Metz, oui.
Il a fait des choses aussi du côté de Chaligny, etc. Donc, il a vraiment bien travaillé sur le secteur. Il était, non pas aux ordres, mais enfin, il était employé souvent par le duc de Lorraine pour justement faire avancer les travaux, pour pouvoir enluminer en fait tous les monuments religieux des points de pouvoir. Donc il fallait que ça soit beau, il fallait que ce soit... On ne pouvait communiquer que comme ça. Quand je disais tout à l'heure que Hans ne savait que lire, écrire et compter. Mais c'était un élément fondamental. Personne ne savait forcément lire, écrire et compter. Donc les vitraux, les dessins, les tableaux étaient les seuls moyens de communication pour pouvoir faire passer quelques messages.
Voilà.
Et les messages étaient passés comme ça pour faire passer tout ce qui était ecclésiastique, tout ce qui était religion, tout ce qui était croyance, en fait.
Ouais.
Donc, Valentin Bouche avait beaucoup d'importance.
Oui, oui, bien sûr. Alors, Hans, comme il est doué, il a un peu moins de travail puisqu'il a tout réglé au niveau de la comptabilité. Donc, il va travailler avec Valentin Bouche.
Oui, et comme vous le disiez tout à l'heure, un peu par accident, ces petits dessins qu'il griffonné sur un coin de parchemin. Le maître verrier, en fait, se retrouve un peu interloqué par le coup de patte. Et quelque part, bah, donc proposer justement à Hans de participer à l'élaboration d'un vitrail, qui est le vitrail de la Dormition de Marie, qui se trouve donc à la basilique, bien évidemment, et qui met en scène, donc effectivement, l'Assomption de Marie, tout simplement.
Oui.
Et par son petit trait, va pouvoir dessiner quelques personnages, va aider aussi sur l'élaboration de vitraux de quelques saints, Sainte Catherine de souvenir, il doit y avoir également Saint Martin. Enfin bon. Il trouve quelque part, et une boucle est un peu bouclée, il retrouve un petit peu son éducation ecclésiastique à travers un art, tout simplement.
Oui, oui.
Bien qu'il ait quitté effectivement tout son domaine. Son domaine de prédilection, non, parce qu'il était tombé dedans un peu par hasard.
Oui, oui, bah
mais
c'est ça.
Mais quelque part, il y a une boucle.
Oui, c'est vrai. Alors, on sent que vous êtes fasciné par cette basilique. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Qu'est-ce qu'elle vous inspire?
Dire qu'elle est belle, qu'elle est grande, qu'elle est lumineuse, qu'elle est très bien entretenue, grâce également à un don dont a bénéficié la basilique. Elle est... C'est un peu la ville à la campagne, j'allais dire. C'est un beau monument qui n'est pas dans une grande ville.
Oui, c'est vrai.
En fait, on a à peu près le même gabarit que la cathédrale de Reims, par exemple, mais elle n'est pas au milieu d'une grande métropole. Elle reste une basilique à la campagne.
Oui, oui.
Je la trouve magique.
Alors, à cette époque-là, il y avait des maladies, et notamment la lèpre. Je ne savais pas qu'il y avait une maladrerie à la Madeleine, près de Nancy.
Il y en avait une. Alors, c'était juste à l'endroit où se situe maintenant l'usine Novacarb, donc à la Madeleine. Alors, il n'y a plus du tout de reste. Hein.
Oui.
Ce ne sont que par documents que j'ai pu récupérer, retrouver effectivement l'emplacement de cette maladrerie. Plus tard, Anne Ferrier en a fait une autre dans les années 1600, et cette fois-ci de l'autre côté de Saint-Nicolas-de-Port.
Oui, oui, voilà. Oui. Mais c'était une petite ville dans la ville, en fait.
Ah, une maladrerie, oui. C'était, c'était une société dans la société.
Oui, c'est ça.
Avec ses règles, bon, qui étaient relativement proches de celles de la cité, mais malgré tout, avec certaines activités qui étaient quand même un peu particulières.
Oui, il y avait quelques tripots.
Ce que l'on appelait les petites maisons qui se situaient dans les maladreries, on appelait ça des bordes.
Ah d'accord.
Et les bordes, en fait, sont devenues par extension les bordels. Simplement parce qu'on y trouvait des filles faciles, on y trouvait des tripots, on y trouvait des jeux d'argent. C'était, j'allais presque dire, un petit casino à l'air libre. Il n'y avait pas que ça, bien sûr.
Bien sûr.
Mais
oui.
C'était là où se situait le plus d'exactions.
Oui, oui, bien sûr. Mais bon, en même temps, il y en avait qui n'étaient pas malades, puis qui allaient quand même.
Certains qui... Bon, à partir du moment où il y avait une prébende qui leur permettait, effectivement, de vivre sans rien faire, pourquoi pas aller s'amuser ? Donc oui, il n'y avait pas forcément que des malades dans les maladreries.
On veut des noms.
Alors, je ne les ai pas tous, parce que les registres, en fait, n'ont pas survécu. Mais d'accord. Sinon, oui, on pourrait peut-être essayer de s'amuser à trouver une maladrerie avec des noms célèbres. Mmh. Il doit certainement exister. Hein,
ça vous a pris du temps pour vous documenter ?
Ah oui, j'ai mis... je dirais qu'il m'a fallu 3-4 ans pour avoir suffisamment
de matière,
d'éléments. Parce que tout ce qui est historique est quelque part vérifiable aussi.
Mmh.
Et je ne veux pas que l'on puisse dire « non, ça, c'est pas possible » parce que la base doit être réelle.
Oui,
même si la fiction se promène au milieu, il faut que l'ensemble, que l'élément soit cohérent, soit propre. Donc oui, ça m'a pris du temps.
Ouais.
D'ailleurs, je remercie beaucoup la médiathèque de Saint-Nicolas-de-Port, en l'occurrence, qui m'a aidé dans mes recherches.
Puis les amis de la Basilique sont aussi... ils sont férus.
Ah, tout à fait. La fameuse association Connaissance et Renaissance de la Basilique, c'est une mine formidable. Et les gens sont fabuleux, donc... Oui.
Mm-hmm. Alors, dans votre récit, il est question d'un coffre rempli de pièces d'or cachées à la vue de tous. Et à la fin de votre roman, vous faites un clin d'œil à un autre de vos romans, Les Gargouilles pour seul témoin.
Oui.
Roman qui donne la réponse, apparemment.
Absolument. C'est le fameux... Alors là, moi aussi, je boucle une boucle. C'est le fameux roman qui m'a fait envie d'écrire l'histoire de Hans. Mm-hmm. C'est le fameux cinquième roman policier qui s'appelle donc Les Gargouilles pour seul témoin.
Oui, oui.
Et c'est en écrivant ce roman policier que m'est venue l'idée d'écrire celle de Hans. Donc, je travaille en anti-chronologie, j'allais dire. J'ai déjà écrit la suite avant d'écrire le premier.
D'accord.
Ce qui est assez, assez cocasse, en fait,
sur
la base. Oui, on a la solution dans ce fameux livre.
Oui. Et vous allez continuer dans ce registre ? Vous êtes tombé dedans, dans l'histoire ?
Ça, c'est la grande question. Franck Terco me manque un peu, donc je pense que certainement repartir sur quelque chose de policier. Après, je ne me ferme aucune porte. Mmh. Donc, si un sujet me passionne, ça c'est sûr que je vais plonger dedans.
D'accord. Nous allons faire une pause musicale et nous allons écouter la chanson de Slimane, Résister.
Résister au chant des sirènes, je veux croire en la paix pour pas mourir de haine. Je dois résister, alors je te dis je t'aime. Il faudrait qu'on se parle pour comprendre nos peines. Désolé, j'ai trop mal, je peux plus me taire. Je sais que t'as mal, alors on fait quoi mon frère? What about peace? What about freedom? What about love for all the children in this crazy world? Enfants, j'ai si peur de ce monde qu'on laissera en partant. Faut rien lâcher.
Les plumes sur RCN, Mona.
Nous sommes toujours avec Denis Bollot, venu nous parler de son roman Un Gulden au creux de la main, publié en auto-édition. John Bullitt va nous faire la lecture de la suite de sa nouvelle Les Embêtants.
Ah, les embêtants. C'est comme ça que, du haut de mes 10 ans, je les avais appelés, les embêtants. Une race que j'espérais à part et en voie d'extinction. Mais que j'ai dû malheureusement rencontrer et affronter 2 fois dans ma prime jeunesse. Après l'histoire dont je vous parlais la semaine précédente, ce embêtant rencontré dans la forêt à l'âge de 10 ans et que certains auraient pu appeler un violeur d'enfants, ce fut quelques années plus tard au lycée Jules Ferry de Saint-Dié-des-Vosges, un lycée d'ailleurs où je dois dire je redoublais consciencieusement les classes trop occupées par le sport et les filles. Bon, il ne faut pas le dire. C'est là donc que je rencontrais une autre variété de embêtants. Alors ce dernier, du même âge que moi mais un peu plus trapu, s'obstinait à chaque cours de gymnastique et sans raison à me créer des soucis dans le gymnase. Changeant mes affaires de place dans les vestiaires, les décrochant, les accrochant une autre patère, que ce soit mon sac ou mes vêtements, et ça dès que j'avais le dos tourné. Amusant, certes, une fois ou deux, mais plus agaçant quand la scène se renouvelait à chaque cours de gym, accompagné de bourrades, de petits coups de coude virils, tout en se moquant de moi, de mon étourderie. « Ah, où peut bien être ton sac ?» Ouais. J'avais beau lui expliquer calmement que c'était pas très drôle et lui faire quand même des passes quand on jouait au foot alors qu'il y brillait pas vraiment. Mais non, rien n'y faisait. Les copains ne comprenaient pas très bien ce qui se passait, le prof y voyait que dalle. Bref, tout un trimestre à subir seul ces brimades, ces blagues puériles, c'était un peu trop pour ma patience. Aussi, un jour, après l'un de ces sempiternels changements de place de mes affaires, le pris-je à partie dans le grand gymnase du lycée, juste avant le début du cours, en le sommant d'arrêter son manège. Quelques mois auparavant, j'avais reçu en cadeau de la part d'un ami sportif un livret sur le judo. Ah, apprendre le judo et le karaté en 10 leçons par les éditions Marabout. Moi qui n'ouvrais que très peu de livres à l'école, mais plutôt des bandes dessinées ou des romans d'aventure, là je m'y étais intéressé vivement, en avais tiré 2 parades qui me semblaient utiles, même si à l'époque je subissais pas, enfin pas encore, les ennuis dont je parle plus haut. La première de ces parades, en utilisant ma jambe à 90 degrés, tout comme le héron, permettait d'atteindre au visage avec cette jambe en question un ennemi à plusieurs mètres. Il fallait se déplacer en appui sur l'autre jambe, frapper le vis-à-vis au visage. Le couloir de notre appartement devint alors mon lieu d'entraînement favori durant toutes les vacances de Pâques. Un vieux mannequin, remis discrètement à sa place dès que mes parents rentraient du travail, placé au fond du couloir, et l'affaire était faite. Et la seconde parade a été plus difficile à mettre en pratique. Oui, le livre racontait qu'en utilisant la force de quelqu'un qui vous pousse, tout en reculant, en roulant sur le dos, eh ben, n'importe qui pouvait expédier l'autre en l'air. Spectaculaire, mais je trouvais pas d'adversaire à ma taille dans mon couloir, si c'était à chaque fois le fameux mannequin ou mon vieux polochon qui pesait pas bien lourd en face de moi. C'est d'ailleurs lui qui sonne à la fin de mes entraînements quand j'explosais le pot de fleurs de magnolia vert et rouge en projetant sur lui le dit polochon. J'inventais une histoire à dormir debout à mes parents qui me crurent qu'à moitié et je me tins dès lors tranquille avec le marabout et ses 10 leçons. Mais ce jour-là, au gymnase, dès que j'y fus rentré, mon embêtant préféré se rua sur moi. Et fort agressif, me poussa. Ah, magie de l'entraînement du polochon. Mon réflexe fut de l'agripper au col, l'attirer à moi et de le faire voler en l'air, le soulevant avec mon pied sous les regards stupéfaits des autres élèves. Le sol en bois était rude aussi. Resta-t-il au sol quelques instants après son vol plané, bien sonné. Pendant que les professeurs de gym me demandaient avec effarement « Qu'est-ce qui m'avait pris de me battre, moi, l'élève d'habitude si cool ?» Je restais muet, affaire privée. Désormais, en tout cas, il se tint quoi et à distance, respectueuse de ma personne. Il ne savait pas encore, ni moi d'ailleurs, que ce comportement s'appelait du harcèlement et qu'un harceleur à présent est puni par la loi numéro 2022-299 du 2 mars 2022 et qu'il est passible de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Mais à 16 ans, pour moi, c'était qu'un nom, un zambétant. Un zambétant tout comme celui de mes 10 ans. Alors même, si je m'en suis plutôt bien sorti, je me dis parfois que si tous les embêtants du monde pouvaient se donner la main et aller se promener ailleurs, eh bien, la vie serait beaucoup plus facile.
Merci, John.
Les plumes sur RCN, Mona.
Merci à Denis Bolo d'être venu nous présenter son roman « Un gulden au creux de la main » publié en auto-édition. Merci à John Bulitre d'être venu nous faire la lecture de la suite de sa nouvelle « Les embêtants ». Merci à Joris qui était à la technique aujourd'hui. Au revoir à tous et à bientôt.
Au revoir. Au revoir.